Québec. Vous écoutez Mon Grain PM.
Mexico, in some form, and there are many different forms, will reimburse us, and they will reimburse us for the cost of the wall. That will happen. I want to get the wall started.
Voici Jean-Luc Mongrain.
Vous n'êtes pas revenu dans le voyage dans le temps en entendant le président Trump vous parler et adresser la parole. C'est un extrait, Valérie Beaudoin, qui est chercheur et associée à la chaire Raoul Dandurand et chroniqueuse ici au réseau Cogeco. C'est un extrait du discours que prononçait au moment de sa campagne électorale Donald Trump pour devenir président, disant que pour l'immigration, c'était suffisant, il fallait mettre un mur.
Oui, le fameux slogan « Build the wall hein, » qu'on criait dans les rassemblements et qui avait dit « Le Mexique va payer pour le mur, vous allez voir ». Qu'après ça, il a dit « Non, non, j'ai jamais dit ça ». Il était revenu sur sa parole, mais finalement, non, le Mexique n'a pas payé pour le fameux mur qui n'a jamais été terminé d'ailleurs.
Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que Donald Trump refait surface après l'Ohio dans un rassemblement pour appuyer un candidat. Voilà que maintenant, il se présente au Texas. Là où est le mur, j'allais dire, il est au pied du mur.
Oui.
Et il veut encore faire valoir que la politique de Biden en matière d'immigration est pire. Et ça, c'est épouvantablement détérioré depuis que Biden est là.
Oui, et vous en avez parlé avec Luc Lavoie de ce retour de Donald Trump, justement, qui refait surface, on a l'impression, parce que oui, on le voit plus sur les réseaux sociaux parce qu'il est banni d'à peu près partout, mais on le voit sur le terrain parce que c'est les élections de mi-mandat qui s'en viennent. Et là, surtout parce qu'il veut faire valoir, disons, l'urgence de construire ce fameux mur. Alors, il est accompagné, ou je dirais plutôt le contraire, Greg Abbott est accompagné de Donald Trump. Greg Abbott, c'est le gouverneur du Texas. Et lui, Jean-Luc, ce qu'il veut faire, et c'est pour ça que Donald Trump est avec lui, c'est qu'il se dit, bon, Biden ne veut pas construire, lui, le fameux mur. Il a gelé la construction. D'ailleurs, il y a des endroits où il y a les matériaux qui ont été achetés. Il n'y a rien qui se passe à la frontière.
Là.
Voilà. Et ce qu'il dit, c'est qu'on va financer nous-mêmes, l'État du Texas, le mur. À même des fonds publics, entre autres. Donc, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, vous comprenez. Hein?
Bien sûr.
Le budget des services, du service carcéral, par exemple, des prisons, les taxes des gens au Texas. Il y a même une espèce de levée de fonds que le gouverneur organise pour que les gens, des intérêts privés, paient pour ce fameux mur, pour empêcher ce flot de migrants de venir aux États-Unis.
Un financement social.
Voilà. Il y a déjà eu un GoFundMe, hein?
Ah,
sous Donald Trump, on avait amassé 17 millions la première semaine. Il y a eu de la fraude d'ailleurs après, là, ça. On le raconte pas toujours.
Où ça s'est rendu, ça, c'est une autre histoire. Mais cette situation, est-ce que véritablement, elle s'est détériorée pour l'immigration?
C'est vrai que des interceptions à la frontière, écoutez, ça a battu des records qui étaient vieux de 20 ans. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Est-ce que les gens se sont dit, ah, c'est Joe Biden, on le sait, on a peut-être moins de chances de se faire renvoyer dans notre pays, il est plus accueillant, on le sait, hein, il a parlé toujours des politiques de Trump comme étant inhumaines. Est-ce qu'il y a ça en partie? Il y a aussi, bien sûr, la COVID qui a affecté beaucoup de pays de l'Amérique centrale. Bon, au niveau de la pauvreté, de la violence... Exactement. Déjà, ça allait pas bien la situation. Juste pour vous donner un exemple à quel point il y a des gens qui tentent de traverser. En 24 heures, là, et ça, c'était des chiffres d'hier, il y a eu plus de 2000 appréhensions de gens qui traversaient. Et ça, c'est des gens qui voulaient se faire intercepter, qui n'essayaient pas de se cacher parce qu'ils se disaient, on va demander peut-être un asile politique ou autre. Alors, écoutez, on est à 180 000 dans le dernier mois de gens qui ont été interceptés. Ça ne va pas nécessairement très bien.
C'est quand même important. On a beau être favorable à l'accueil, avoir une politique d'ouverture, 180 000 personnes qui entrent à un moment donné dans un pays, fut-il un pays de 350 millions d'habitants, c'est 180 000 personnes à traiter et dossiers à traiter. Le président Biden a donné ça à Kamala Harris?
Oui, on dit la patate chaude, hein? Oui. L'expression, c'est ça que ça dit. Oui, parce que ces gens-là...
Arrange-toi avec ça.
Le problème, c'est que toutes ces personnes-là qui viennent ici, il y en a encore beaucoup qui se font renvoyer. Alors là, tu as les démocrates qui poussent en disant, ben là, faites pas comme Donald Trump, accueillez les gens qui arrivent. Donc, certains démocrates pensent ça parce que, en raison de la COVID, oui, Joe Biden va renvoyer énormément d'adultes dans le pays d'origine. Donc, il va pas accueillir toutes ces personnes-là, ça, c'est pas vrai. Il y a aussi la politique des enfants non accompagnés. Des enfants, des mineurs qui sont venus. On avait vu des images. Là, c'était pas les familles séparées, mais c'était plutôt des enfants que les parents envoyaient pour qu'il y ait une meilleure vie. Et ça, il est entassé dans des tentes, dans des chaleurs épouvantables avec pas du tout... Écoutez, ça avait l'air un peu des prisons.
Beau dossier pour Mme Harris.
Alors, Mme Harris, elle s'est rendue, Jean-Luc, au Guatemala, au Mexique récemment, justement pour aller voir c'est quoi les causes de cette immigration illégale-là. C'est ce qu'elle dit vouloir faire, c'est de trouver les raisons. Derrière.
Et peut-être trouver des solutions pour que ça se règle sur ce territoire et non pas sur les territoires américains. Rapidement, 30 secondes peut-être, Il va y avoir des accusations peut-être de porter aujourd'hui contre l'organisation Trump de financement.
Oui, le Wall Street Journal, est-ce qu'il a eu comme information, mais c'est quelque chose qu'on savait qui devait arriver cette semaine. Les procureurs de New York qui vont décider oui ou non de porter des accusations contre la Trump Organization. Alors, c'est pas contre Donald Trump directement, non. Mais l'organisation que dirige sa famille.
Et des dirigeants de l'organisation.
Exactement. Alors ça, c'est par rapport à des malversations financières. On parle ici de fraude, d'impôts qui n'ont pas été payés. Donc, on va voir, ça devrait arriver demain, mais on peut être certain que Donald Trump risque d'en parler en disant que c'est une autre des chasses aux sorcières que font les démocrates ou les gens de façon générale.
Valérie Beaudoin, chercheure associée à la chaire Raoul Dandurand, chroniqueuse au réseau Cogeco, merci de ces informations. On s'arrête-tu déjà pour une pause ou presque? Il faut que je vous parle de ce qui s'en vient parce que c'est des dossiers fort intéressants. D'abord, on va parler à Enrico Ciccone parce que dans la Ligue nationale, je pense que c'est un des seuls joueurs, en tout cas c'est celui qu'on a retrouvé, qui a joué pour les deux équipes, qui a porté les couleurs des deux équipes qui arrivent en finale. Donc, je veux savoir qu'est-ce que c'est que de jouer pour le Lightning, qu'est-ce que jouer pour le Canadien, y a-t-il des différences? Et il va nous parler un peu de la situation de cette équipe-là, bien sûr. Et je vais vous parler également parce que c'est, on dirait, le temps des réparations, une entente de 60 millions de dollars qui est intervenue dans des cas d'agression sexuelle de la part de la communauté des Frères du Sacré-Cœur et une autre pour les servites de Marie du côté du Collège d'Ayerscliff pour 11,5 millions de dollars. Ça fait 71 millions de réparations, de recours collectifs qui ont été intentés par le passé. On va parler à des avocats qui ont représenté les victimes dans cette affaire-là, bien sûr. On s'arrête donc pour les informations et on vous revient tout de suite après pour la poursuite de l'émission.